Alors, deux ou trois remarques liminaires pour les non-initiés au Périgord et à Jacoul-Croquant. Donc, quand on dit Périgord, c'est la même chose que Dordogne. Hein, l'ancienne province se plaque totalement sur le nouveau département. Et comme Dordognais et Dordognaise, c'est pas très élégant, on dit souvent plus volontiers Périgourdin, Périgourdine. Enfin bon, sachez que quand je vous parlerai de Périgord, il s'agit de la Dordogne. Deuxième élément, est-ce qu'il est utile que je résume en quelques phrases l'histoire de Jacoul-Croquant? Oui, peut-être. Ce que je vous demanderai, pour ceux qui ont vu le film qui est sorti récemment, dont je tairai le nom, tout, oubliez-le. C'est tout ce que je vous demanderai. Il existe en revanche, si l'histoire vous intéresse, c'est un téléfilm qui a été réalisé il y a 25-30 ans, qui est extrêmement fidèle au roman, mais le mieux étant bien sûr la lecture du roman. Donc très très rapidement, Eugène Leroy, hein, c'est pas encore mon introduction, c'est vraiment des remarques liminaires pour les non-initiés, est un romancier célèbre, au moins régionalement, qui a publié un certain nombre de romans qui portent tous sur le monde rural et en particulier hein, sur cette lutte des plus petits contre les plus gros. Et l'histoire en particulier qui nous intéresse de Jacoul-Croquant, c'est pour aller très très vite, une famille de métayers, dont l'enfant est Jacou, qui subit les foudres d'un gros propriétaire terrien qui se comporte, alors qu'on est sous la Restauration, un petit peu comme un seigneur de l'Ancien Régime. Il finit par réussir à arrêter le père, à le faire condamner. La mère et l'enfant se retrouvent livrés à eux-mêmes, tombent dans l'indigence. La mère meurt et Jacou se retrouve orphelin et est recueilli par un prêtre. Alors que Eugène Leroy est profondément, viscéralement anticlérical, c'est un des seuls personnages de prêtre acceptable aux yeux de Eugène Leroy que l'on a dans son œuvre. Donc il est recueilli par un prêtre. Il n'aura de cesse d'essayer de se venger contre ce grand propriétaire terrien qui a eu raison de sa famille. Et il finira, aidé d'une troupe de paysans, par attaquer, mettre le feu au château. Voilà en gros, hein, pour aller très vite, l'histoire de Jacoul-Croquant. Alors ma thèse ne portait pas à proprement parler hein, sur la richesse et la pauvreté, mais ces thèmes étaient au cœur de ma problématique puisque l'objectif était de montrer comment dans une région extrêmement déshéritée qu'est la Double, et le mot est faible quand vous êtes périgourdin et que vous parlez de la Double, que vous dites que vous êtes originaire de la Double, on vous regarde un petit peu encore aujourd'hui comme un pestiféré. C'est là qu'ont été tués les derniers loups de Dordogne. Hein. Et donc l'objectif était de montrer que il n'y avait pas là une région immobile où rien ne s'était passé, mais que les éléments de la modernité étaient arrivés ici comme ailleurs. Simplement, il s'agissait de montrer les différences de rythme qui avaient pu apparaître dans cette région. Voilà, donc je me suis un petit peu remise au travail, je suis retournée dans les archives pour approfondir quand même les éléments sur la pauvreté et puis élargir un petit peu au-delà de la Double qui est quand même une assez petite région, même si je vous donnerai quelques exemples tirés de ma thèse. Donc dans son roman Jacoul-Croquant, qui est publié en 1897, Eugène Leroy dénonce, vous l'avez compris, les conditions de vie misérables de cette petite paysannerie. Avec l'ensemble de ses romans, cet auteur s'est imposé comme l'un des maîtres véritablement de ce que l'on appelle le roman rustique social. Eugène Leroy est un fils de régisseur. Il a été placé en nourrice dans une famille de métayers, une famille paysanne modeste. Et il connaît donc bien la vie des petites gens, même s'il n'a jamais travaillé la terre lui-même. Très vite, son engagement républicain le conduit dans sa vie comme dans ses écrits à une observation qui est très volontiers manichéenne du monde rural et très empreinte de lutte des classes. Hein. Ça, on retrouve dans tous ses romans. Et un petit peu comme dans les romans de George Sand, le paysage social qui est dépeint dans l'œuvre de Eugène Leroy est parfois un petit peu en contradiction avec ce que l'on peut trouver dans les archives. Même si pour la vie quotidienne, il est très utile, et j'y reviendrai, il convient quand même de le passer à la moulinette de ce que l'on peut trouver dans les archives. Néanmoins, son œuvre, et en particulier donc Jacoul-Croquant, apporte un éclairage essentiel sur la vie rurale en Périgord, et en particulier sur ces notions qui vous intéressent dans le séminaire cette année, de richesse et de pauvreté au champ. En effet, comme je vous l'ai dit, il a été élevé au champ, mais durant sa vie professionnelle, puisqu'il était percepteur, il a été confronté au quotidien à la vie rurale et aux difficultés financières des ruraux. Il a également, pour ses romans, parcouru la campagne à la manière d'un ethnologue, hein, on en parlait tout à l'heure, pour se documenter, pour nourrir ses intrigues et pour approcher vraiment au plus près le quotidien, les mentalités paysannes. Alors, ses idées républicaines l'ont conduit à se ranger du côté des plus pauvres, à défendre cette petite paysannerie contre les grands propriétaires terriens nobles qui incarnaient à ses yeux l'ancien régime. Et de fait, la thématique de la richesse et de la pauvreté, qui devient volontiers dans son œuvre celle du bien et du mal, est donc au cœur de l'œuvre de Jeanne Leroy. Donc, partir du roman de Jacoul Croquant pour étudier le thème de la richesse et de la pauvreté, c'est l'occasion, d'une part, de rappeler les limites et l'intérêt des sources littéraires, et notamment de ces fameux romans de terroir ou romans rustiques. C'est également un moyen de revenir sur l'enjeu méthodologique que constitue pour l'historien la confrontation entre le perçu et le vécu, tant elle est riche d'enseignements. Il s'agira donc de partir de quelques idées forces du roman et surtout des personnages principaux que sont Jacoul Croquant pour la pauvreté, pour faire simple, et le fameux méchant comte de Nansac pour la richesse, et de confronter donc ces images à la réalité sociale, économique et politique donc de la période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, du tout début des événements de la Seconde République. À partir de quelques sources originales, hein, dont j'aurai l'occasion de parler au fil de ma présentation, également des apports de la micro-histoire, nous nous interrogerons donc sur les contours de la richesse et de la pauvreté au champ, et nous nous demanderons s'il s'agit là de deux mondes clos et hermétiques, voués à une incompréhension mutuelle, ou au contraire, de deux mondes de plus en plus complémentaires et solidaires. Donc tout d'abord, la pauvreté au champ sous les monarchies constitutionnelles entre réalité et représentation. L'étude de la pauvreté au champ ne peut se concevoir que selon une définition large. Pourquoi ? Parce que d'une part, à cette époque, les campagnes comptent assez peu de mendiants. Alors quand je dis les campagnes, je parle des villages. Assez peu de mendiants qui préfèrent les lumières de la ville, même petites. Et quand je dis petites, j'évoque surtout les chefs-lieux de canton. Petites villes qui possèdent quasi systématiquement des hospices et des bureaux de bienfaisance. D'autre part, une définition large parce que la pauvreté, certes très présente, est un phénomène fluctuant, un phénomène qui évolue tout le temps, au gré des saisons, au gré des années, on y reviendra. Et Eugène Leroy ne s'y trompe pas, la pauvreté qu'il décrit n'est pas celle des mendiants, mais bien celle de la petite paysannerie fragile et précaire. Le problème, c'est que le portrait qu'il en dresse, il constitue une source d'information utile à l'historien, doit être confronté aux sources. Et donc, c'est ce que je vais aborder dans un premier temps, dans cette première partie, la question des difficultés méthodologiques, notamment quand on travaille sur la pauvreté en milieu rural. Pourquoi difficultés méthodologiques ? Ça revient à ce que je disais à l'instant. Tout simplement parce que, dans la mesure où notre étude porte sur la pauvreté au sens large, il n'existe aucune structure chargée de répertorier cette population. Leur repérage est donc une mission quasi impossible. Quand je suis retournée ces derniers mois donc en archives dans la perspective de cette présentation, mon premier réflexe a été de partir examiner les listes de recensement pour repérer les mendiants et les indigents. Mais celles-ci se sont avérées quasiment inutiles dans la mesure où les résultats obtenus apparaissaient totalement fantaisiste. Tout d'abord, les maires minimisent volontiers le phénomène qui est gênant, qui est tabou. La pauvreté est teintée de honte pour les édiles, mais aussi pour ceux qui la vivent au quotidien. Le maire de Bergerac nous explique, je cite, qu'il n'est pas la peine d'en parler. Le maire d'une commune qui s'appelle Pluvier nous explique dans une source qui est extraordinaire et dont je vais beaucoup me servir aujourd'hui, qui est l'enquête Brard, hein, j'en reparlerai, c'est une enquête qui est réalisée en 1835, donc en plein dans la période qui nous intéresse. Donc le maire de Pluvier explique, je cite, qu'on est honteux de mendier et aussitôt qu'on le peut, on le cesse. Bon, c'est le regard du maire, bien évidemment. Mais surtout, la définition de l'indigence diffère selon les communes et, au sein d'une même commune, selon les maires et les différents édiles qui sont à même de remplir soit les listes de recensement, soit de répondre aux diverses enquêtes auxquelles ils sont soumis. Donc j'ai effectué un sondage pour la liste de recensement de 1836 sur 33 communes qui totalisent à peu près 24 000 habitants. Donc chaque personne a été scrutée. Et sur ces 24 000 habitants, je n'ai pu repérer qu'un indigent dans une commune et trois mendiants dans une autre commune. Or, grâce à cette fameuse enquête Brard, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est une enquête qui comporte à peu près une centaine de questions, qui a été remplie par 362 communes sur les 550 que compte environ le Périgord, hein, un petit peu plus à cette époque-là, et qui est vraiment une mine d'or pour l'historien du rural. Donc grâce à cette enquête, on a pu approcher la pauvreté tout simplement parce qu'il y a une question qui, je cite, demande au maire « Combien compte-t-on de pauvres ne vivant que d'aumônes dans la commune? Leur nombre a-t-il diminué ou augmenté depuis 10 ans ?» C'est une question fermée, mais on a la chance qu'un certain nombre de maires se soient un petit peu laissés aller et exprimer des éléments qui n'étaient pas forcément demandés par Brard. Or, les réponses à cette question suffisent à montrer que les résultats des listes de recensement sont totalement erronés. Je prends trois exemples où j'ai confronté la liste de recensement de 1836 et la réponse dans l'enquête Brard 1835. Hein, il y en aurait des dizaines, mais je n'en prends que quelques-uns. Dans la commune de Bourdeil, qui compte 545 habitants, le recensement de population ne fait apparaître aucun mendiant ou indigent, alors que dans sa réponse à l'enquête, la même année, le maire indique que sa commune compte une trentaine de pauvres ne vivant que d'aumônes. Même chose à Bourg-des-Maisons, village de 553 habitants, qui ne présente aucun indigent dans la liste de recensement, alors que le maire reconnaît dans l'enquête que son village compte 3 maisons de mendiants, soit 8 personnes. Le problème, c'est que même dans cette enquête Brard, la définition ne va pas de soi. Ainsi, dans sa synthèse, il explique que certains maires, dont celui de Bergerac, ont confondu les indigents et les mendiants, sans lui-même expliquer ce qu'il entend par ces deux termes, ce qui reste totalement flou. De la même manière, dans les réponses, certains maires parlent d'individus, d'autres de familles. Parfois c'est précisé, parfois non. Donc on ne peut pas non plus se servir de cette enquête-là pour mener une étude quantitative de la pauvreté. Et je n'ai pas, en aucun cas, eu la volonté de mener une quelconque étude quantitative qui me semble totalement impossible. Néanmoins, un certain nombre de sources, au premier rang desquelles cette fameuse enquête Brard, nous permettent d'en proposer une approche qualitative relativement fine. Donc, dans un deuxième temps, j'ai essayé donc de repérer les contours assez flous des gens de la terre et de la pauvreté. Puisqu'en effet, c'est la première idée, les frontières de la pauvreté sont des frontières mouvantes. L'un des éléments centraux de l'histoire de Jacques le Croquant, hein, puisque c'est de ce roman que je me suis proposé de partir, est bien la précarité perpétuelle des petites gens des campagnes périgordines. Eugène Leroy a souvent été taxé, parfois à juste titre, de vouloir exagérer les conditions de vie pitoyables des paysans dans ses romans qui étaient éminemment engagés. Mais il n'en demeure pas moins que on ne peut que reconnaître que la frontière de la pauvreté est ténue, par exemple entre les petits métayers fragilisés par de mauvaises récoltes et ceux qui basculent dans la pauvreté ou dans l'indigence. Dans l'enquête Brard, donc, sur les 362 réponses, on a une cinquantaine de réponses qui délayent un petit peu les choses. Or, cette enquête fait ressortir cet aspect fluctuant de la condition des petites gens de la terre qui sont régulièrement obligés de demander l'aumône. Et ce qui apparaît, c'est effectivement l'aspect cyclique de ce basculement dans la pauvreté et non pas l'aspect permanent. Par exemple, dans la commune de Lacassagne, le maire explique que parmi les mendiants actuels, il en est qui ne mendient pas toute l'année ou continuellement. Un autre maire dit que ces pauvres ne mendient que de temps en temps. En effet, pour ces populations précaires qui vivent du strict minimum, il y a un rythme des saisons. L'hiver est bien évidemment une saison difficile. On le retrouve dans les réponses de plusieurs maires. Par exemple, le maire de Verteillac nous explique que le nombre de mendiants est considérable en hiver et diminue dans les temps des travaux. Donc ce cycle des saisons est une réalité, mais il faut aussi prendre en considération qu'il dépend très étroitement de la qualité et de l'importance des récoltes. À la vérité, dit un maire, à la mauvaise saison et dans les mauvaises années, et donc là on perçoit bien les deux cycles, il se trouve deux ou trois familles qui réclament quelques secours temporairement. En effet, ici comme ailleurs, le nombre des pauvres augmente et diminue. C'est, nous dit avec fatalité le maire de Saint-Estèphe, c'est les récoltes qui dirigent ça. Et plusieurs témoignages y reviennent, hein, nous disant que les pauvres vivant d'aumône augmentent dans les années disetteuses, que leur nombre varie selon la pénurie des récoltes, qui épouvre souvent des sinistres, et que cette année, 1835, la grêle ayant ravagé la commune entière, nous dit le maire de Salignac, plusieurs habitants sont forcés d'aller mendier. Liée aux récoltes, la courbe des prix du grain modifie également les frontières de la pauvreté. Lorsque le maire de Saint-Séverin d'Astissac répond à l'enquête, les céréales étant à bas prix, nous dit-il, le nombre de pauvres est plutôt dans un ordre décroissant qu'il n'est en augmentation. Les maires de Prigonrieux et La Chapelle-Gonaguet, vous allez connaître plein de noms de villages périgourdins, expliquent que le nombre des pauvres varie selon le bas prix ou la chute des comestibles et qu'il en existe peu depuis que le blé est commun et bon marché. Donc de fait, un grand nombre de paysans sont forcés de compléter leur travail, au moins de manière ponctuelle, en mendiant. Le deuxième élément qui nous permet de souligner un petit peu cet aspect mouvant de la pauvreté, c'est la force des représentations. Et là, je pars de nouveau de l'approche que nous en propose Eugène Leroy. Eugène Leroy insiste surtout, dans la plupart de ses romans, sur la pauvreté et la précarité des métayers, qu'il estime être à la merci des grands propriétaires profitant volontiers de leur travail. Alors, d'autres sources viennent confirmer les difficultés des métayers, de leur insoutenable incertitude qui est liée à l'état de dépendance dans lequel ils se trouvent, attendant chaque année de savoir si le propriétaire reconduira leur bail ou non, puisque la plupart du temps, du moins en Périgord, nous avons affaire à des baux d'un an. Plus rarement des baux de 3 ans et encore plus rarement des baux de 6 ans. Mais la grande majorité, ce sont des baux d'un an, du moins pour ceux que l'on a retrouvés, puisqu'on sait que la très grande majorité était oraux et non pas passés devant notaire, pour notre région en tout cas. Effectivement, dans l'enquête Bras, on parle parfois de métayers. Par exemple, le maire de Pluviers insiste sur le fait que, je cite, « comme les mendiants sont toujours des bordiers », bordier c'est un terme qui qualifie parfois les métayers, en Périgord, on trouve les deux termes de manière indifférenciée. Donc, comme les mendiants sont toujours des bordiers et qu'ils sont sujets à être renvoyés par leur maître, ils entrent et sortent tous les ans de la commune quelques familles. Donc là, l'aspect de la mouvance, de la fluctuance est important. Mais il conviendrait quand même de revenir un petit peu sur cette image misérabiliste de la condition du métayer. En 1838, le curé de Cubjac, donc on n'est pas dans l'enquête cette fois-ci, évoque cette pauvreté sans pour autant dresser un tableau aussi terrible que Eugène Leroy. Selon lui, les métayers sont pauvres en général, certes, vivent souvent de privations, sont mal vêtus, mal logés, mais ils ne parlent jamais d'indigence, ils ne parlent pas de ce basculement possible et récurrent, régulier, dans une situation de plus grande pauvreté. En effet, beaucoup de métayers, plutôt que de mentir, exercer des activités complémentaires pour éviter, autant que faire se pouvait, de tomber dans l'indigence. Hommes et femmes se louaient régulièrement comme journaliers. C'est le cas de la mère de Jacoule Croquant à partir du moment où son époux est décédé et qu'elle n'a plus sa métairie. Pour les hommes, la forêt, très présente et omniprésente en Périgord, et surtout pour la double que j'ai étudiée, la forêt offrait des emplois complémentaires, notamment dans la saison difficile qu'était l'hiver. Emploi de charbonnage, de bûcheronnage, de transport de bois. Elle permettait de nourrir beaucoup de métayers pauvres ou de basses conditions. Certains métayers pouvaient aussi s'employer au moins temporairement comme tisserands. On trouve parfois cette double activité. Les femmes, quant à elles, filaient la quenouille ou prenaient des enfants en nourrice. Et certaines communes, et c'est ce retour en archives là pour repérer les indigents qui m'a permis de repérer que certaines communes s'étaient spécialisées dans le phénomène donc de la mise en nourrice. Phénomène est totalement absent dans certaines communes et puis dans d'autres, quasiment chaque famille de métayers a un ou plusieurs enfants en nourrice. Généralement, sans doute, ce sont des communes qui ne sont pas très très éloignées des villes les plus importantes du département. Alors, ces activités annexes permettaient de tirer quelques revenus complémentaires et donc cette pluriactivité constituait l'un des meilleurs remparts contre l'extrême pauvreté, sans compter bien sûr le braconnage ou le ramassage de denrées diverses dans les bois et les communaux, comme le montrent certaines archives, comme les archives de justice pour le braconnage. Enfin, au sein du monde rural, les métayers, et là c'est important, ne sont pas les seuls à porter les stigmates de la pauvreté, ou du moins de la précarité. Et ça c'est vraiment important parce que si l'on s'en tient à Eugène Leroy, on a l'impression que les seuls qui sont vraiment en danger chez les paysans, ce sont les métayers. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a bien sûr les journaliers qui dépendent des emplois qu'ils trouveront, et souvent ils ne sont employés que pour quelques jours, et puis ils parcourent la campagne pour trouver de nouveaux emplois. Mais il y a aussi un phénomène un petit peu moins connu dans cette terre qui a, Périgourdine, qui a longtemps été, longtemps porté l'image traditionnelle d'une terre classique de métayage. On trouve ça dans Audigan, qui fait un article sur le métayage en Périgord dans la Revue des Deux Mondes à la fin du 19e. Ça a d'ailleurs été repris, par beaucoup dans beaucoup de travaux dans la première moitié du 19e siècle. Mais ça a depuis été largement corrigé, mais je pense que ça doit l'être encore, car aujourd'hui, lorsqu'on sort de la communauté des historiens, les idées reçues font que c'est encore l'image que l'on a du Périgord. Et si le Périgord est bien une terre d'élection du métayage, ça je ne le remets pas en question, il est loin derrière des départements comme l'Allier ou comme les Landes voisines, par exemple. Le Périgord est avant tout une terre de petites propriétés rurales qui, en nombre d'exploitations, je dis pas en surface, je dis en nombre d'exploitations, sont beaucoup plus importantes que les métairies. Le recensement donc, et l'enquête agricole de 1852 nous montrent cette distribution de la population agricole. L'un des auteurs qui nous a permis de beaucoup avancer sur la question est un Anglais, Ralph Gibson, qui a fait une thèse excellente sur le Périgord, qui malheureusement n'a pas été publiée. Et nous avons également beaucoup avancé sur la question dans le cadre de nos travaux donc sur la Double. Il convient également de souligner l'importance en ce qui concerne les terres périgourdines, mais on retrouve ça ailleurs, des statuts mixtes chez cette population agricole précaire. Autrement dit, des métayers qui possèdent par ailleurs quelques terres, qui permettent de les sauver en période difficile, mais aussi des propriétaires fermiers ou des propriétaires journaliers. Et ça, c'est le cadastre qui nous a permis de repérer souvent ces statuts mixtes. Donc finalement, et là je cite Ralph Gibson, il existait en Dordogne une très grande classe de petits propriétaires vivant péniblement de leur front, quelquefois indépendants, quelquefois obligés de travailler une partie de leur temps pour autrui, élément le plus nombreux et le plus essentiel des structures sociales périgourdines. Ces petits propriétaires, comme a pu par exemple le montrer Jean-Luc Maillot dans la petite exploitation rurale triomphante, sont souvent pleins de ressources et complètent leurs revenus, comme les métayers par la pluriactivité. Mais eux aussi constituent, on ne le dit pas assez souvent, une large frange pour le Périgord, en tout cas, de la population rurale précaire, même s'ils ne risquent pas, bien sûr, comme les métayers, être expulsés, ou du moins moins facilement. La possession de la terre ne les met pas à l'abri de la pauvreté, et j'insisterai notamment sur une étude qui a été menée par un géographe dans le cadre d'une thèse sur la région du Sarladais, qui a montré que le seuil qui sépare dans cette région l'exploitation à peu près viable de celle qui peut dégager des excédents commercialisables se situe autour de 5 hectares. En deçà, selon lui, dans cette région, les paysans ne peuvent dégager de surplus et n'en retirent qu'une nourriture insuffisante pour survivre. Or, à l'exception de certaines régions céréalières en Périgord, on peut considérer que ce seuil de 5 hectares peut être repris pour une grande partie des régions pauvres de ce département, y compris pour la Double que j'ai pu étudier dans ma thèse. Et effectivement, dans les travaux que j'ai menés sur la Double, je me suis concentrée sur deux cantons qui équivalaient à peu près à 17 000, 20 000 habitants, donc sur un siècle, dans le cadre d'une approche micro-historique. Donc voilà les deux cantons de Montpon et Mussidan que j'ai pu étudier. Et en ce qui concerne l'étude de la propriété, j'ai étudié le cadastre d'une commune, parcelle par parcelle, sur un siècle. Ça m'a pris un certain nombre de mois, on va dire. Mais en tout cas, j'ai pu repérer donc l'importance de la micropropriété. Alors, attention à l'effet de source. Tous les micropropriétaires ne sont pas des exploitants agricoles. Beaucoup possédaient quelques terres dans la région, notamment pour venir y ramasser la litière pour leurs animaux. Mais de très nombreux micropropriétaires évoluaient et travaillaient sur les lieux. Si on élargit la focale à l'échelle du département, l'enquête agricole de 1862 montre que 44,6% des exploitations, quel que soit le mode de faire-valoir, métayage ou faire-valoir direct ou fermage, font alors entre 0 et 5 hectares. C'est dire le nombre de paysans qui, tous statuts confondus, sont dans une situation de précarité, voire de pauvreté. Parler de pauvreté au champ en Périgord, c'est donc parler d'une très importante part des paysans. Enfin, restent les plus vulnérables, ceux qui ont dépassé les frontières de la pauvreté et sont tombés dans l'indigence. Et effectivement, l'enquête Brar, qui détaille le phénomène, donc nous permet de les mettre en lumière. Beaucoup de mères évoquent par exemple la vulnérabilité des jeunes et des vieux. Avec les veuves qui ont beaucoup d'enfants à charge et les malades et infirmes, ce sont vraiment ceux qui constituent les plus pauvres des plus pauvres, ceux qui mendient au quotidien et non de manière cyclique. Donc dans la commune d'Allemand, par exemple, le maire nous dit qu'il existe une dizaine de pauvres vivant de l'aumône, tous trop jeunes ou trop vieux pour travailler. À Larzac, les seuls qui n'ont absolument rien, nous dit le maire, sont des vieillards. D'autres évoquent le sort peu enviable des veuves et de leurs enfants. Ainsi, à Saint-Sulpice, le maire nous dit qu'il n'y a pas de pauvres vivant uniquement d'aumônes. Il y a en revanche deux ou trois veuves qui, ayant des enfants en bas âge, envoient mendier leurs enfants, mais sitôt qu'ils peuvent travailler, ils n'y vont plus. Enfin, à Quinsac, le maire explique que les seuls qui vivent de charité sont trois ou quatre vieux infirmes qui ne peuvent plus travailler. Bon, je ne multiplie pas les exemples, mais voilà pour le profil de la mendicité à proprement parler. Ce qu'il faut retenir enfin, c'est que l'enquête Brar nous permet de pointer du doigt le fait que les plus déshérités, ceux dont je viens de parler à l'instant, ne sont finalement, contrairement à certaines idées reçues, pas si nombreux dans les villages. En effet, rares sont ceux qui, dans les petits villages, n'ont aucun soutien familial, et ça on le retrouve dans plusieurs commentaires dans l'enquête Brar. Un maire nous dit par exemple qu'il y a des pauvres, mais qui ont presque tous devers eux pour aider à leur soutenance. Mais surtout, l'enquête Brar nous apprend que dans cette première moitié du 19e, les plus déshérités partent généralement tenter leur chance en ville. Quand je dis en ville, c'est l'approche ruraliste de la ville, c'est la ville la plus proche, c'est par exemple le chef-lieu de canton. Pourquoi aller vers la ville, même la petite ville, tout simplement parce qu'on y trouve des structures d'assistance plus nombreuses et mieux organisées, puisque ces chefs-lieux de canton disposent pour la plupart de bureaux de bienfaisance qui ont été mis en place par une loi de 1796. À Nontron, par exemple, le nombre de pauvres, je cite le maire, le nombre de pauvres est immense depuis qu'il existe, en janvier 1835, donc c'est très très récent, un comité de bienfaisance. Alors, ces villes sont d'autant plus prises d'assaut par les pauvres que, à cette période, correspond le développement et l'amélioration en Périgord comme ailleurs des voies de communication qui facilitent l'accès à ces villes. Et je prends l'exemple de Bergerac, où le nombre de pauvres, nous dit le maire, s'est accru depuis la construction du pont qui a attiré dans la commune plusieurs étrangers qui sont souvent sans travail et qui ont contracté des unions mal assorties et de là des enfants malsains. Les maires, donc, des chefs-lieux d'arrondissement et des chefs-lieux de canton se plaignent très souvent de cette situation et reprochent d'ailleurs aux villages, aux communes rurales, de ne pas assumer leurs pauvres, à l'instar du maire de Terrasson, où les pauvres affluent, et qui estime, je cite, qu'il serait heureux d'imposer à chaque commune l'obligation de nourrir les siens. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un déplacement du phénomène de l'extrême pauvreté des petits villages vers les petites villes. Enfin, dans un dernier temps, pour aborder les contours de cette pauvreté, je vais m'intéresser aux marqueurs de la pauvreté en milieu rural. En effet, la pauvreté se donne à voir et les principaux marqueurs de cette pauvreté sont bien sûr le manque de nourriture, mais aussi l'aspect physique et vestimentaire ou encore le logement. Alors, je n'aurai pas le temps de les aborder tous. Je vais me focaliser sur le premier, celui de l'alimentation, puisque j'ai eu l'occasion donc de mener des travaux plus précisément sur la châtaigne, qui est le plat du pauvre par excellence. Alors, dans le roman de Jacou le Croquant, tout un tas de passages foisonnent et font référence au manque de nourriture. Je ne vous en lirai que deux, mais c'est vraiment très très récurrent sur l'ensemble du roman. Donc Jacou nous dit par exemple, alors qu'il est enfant, « Tout en mangeant cette boule de farine de maïs pétrie à l'eau », c'est très triste, Eugène Leroy, c'est, il faut être... bon, voilà, n'attaquez pas Eugène Leroy si vous n'allez pas bien. Voilà. « Tout en mangeant cette boule de farine de maïs pétrie à l'eau, cuite avec des feuilles de chou sans un brin de lard dedans, et bien froide, je pensais à toutes ces bonnes choses vues dans la cuisine du château, et, je ne le cache pas, ça me faisait trouver la mique mauvaise comme elle l'était de vrai. » Plus loin, on peut lire « Le pain, même très noir, dur et grossier, était une nourriture précieuse pour ceux qui vivaient en bonne partie de châtaignes, de pommes de terre et de bouillies de blé d'Espagne. » On pourrait être tenté de croire que l'auteur exagère un petit peu, force le trait, et c'est souvent ce qu'il fait dans ses romans. Pourtant, donc, les recherches que j'ai pu mener sur la châtaigne en Périgord m'ont permis d'appréhender cette pauvreté au champ par le prisme de l'alimentation. Donc là, je vous ai simplement mis quelques images d'une ancienne châtaigneraie à l'état d'abandon aujourd'hui, mais qui donnait à plein vraisemblablement dans la période qui nous intéresse. Ici, une scène de ramassage de châtaignes. Évidemment, c'est postérieur à la période qui nous intéresse. Et un séchoir à châtaignes ici, dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, beaucoup de sources nous indiquent effectivement que la châtaigne et l'alimentation paysanne en général portent les stigmates de la pauvreté, du manque. Ainsi, en l'an 12, et là je remonte un petit peu en arrière, l'annuaire Delfaux précise, je cite, que l'exportation de châtaignes eût été beaucoup plus grande, vu l'abondance de cette récolte, si l'habitant n'eût été forcé de les consommer en très grande partie pour suppléer à la disette du maïs et des autres grains. En 1822, un militaire en reconnaissance dans le pays note que « le Périgord ne récolterait point assez de grains pour sa consommation s'il n'y avait point de châtaignes et de maïs, desquels les habitants des campagnes se nourrissent. À dater du mois d'octobre, on ne voit plus paraître de pain chez eux jusqu'au printemps. Dans les mauvaises années, ces deux productions l'ont souvent sauvé des horreurs de la famine. » Enfin, dans l'enquête Brard, le maire de la commune de Carlux explique que ses administrés consomment des châtaignes et uniquement des châtaignes, pour les plus pauvres, environ 3 mois dans l'année. Autant de signes qui soulignent donc la précarité alimentaire de ces populations paysannes et qui montrent que Eugène Leroy, finalement, n'exagère pas autant que ça. De fait, dans les régions de Castanie, c'est-à-dire vraiment dans le grand est du département, qui sont les terres de châtaigneraie par excellence, chaque ferme dispose d'un séchoir à châtaignes, puisqu'on peut les consommer vertes quelques semaines et ensuite il faut les consommer séchées. Et le long travail que j'ai mené à partir de chaque matrice cadastrale des 566 communes du Périgord m'a permis donc de faire ce travail cartographique avec un collègue, travail qui n'a pas pu être fait, y compris dans les thèses qui portent sur la châtaigne, que ce soit celle de Jean-Robert Pitt ou de Anne Brunton-Governatori, tout simplement parce que c'est quasiment impossible à faire lorsqu'on va aux archives, puisqu'on ne peut sortir que 10 documents par jour. Là, on a eu la chance de pouvoir travailler directement dans les rayonnages, ce qui nous a permis de mener ce travail. Donc là aussi, on pourra y revenir. Donc, quoi qu'il en soit, Jacou le Croquant nous montre dans ce roman et dans son œuvre en général une paysannerie qui souffre véritablement, mais que les archives nous permettent de redéfinir et qui ne se limite pas au simple métayer. Toujours dans son roman, dans le manichéisme qui caractérise ses romans rédigés à la fin du siècle, emprunt des idéaux de la République démocratique et sociale, eh bien Eugène Leroy, il nous donne à voir des paysans bons. Les paysans sont toujours bons, sont toujours empreints de bonnes intentions dans son roman, alors qu'à l'inverse, ils sont corrompus par une classe dirigeante noble dans l'ensemble de ses romans. Cette richesse au champ est incarnée dans ses récits par des nobles, profiteurs et sans vergogne. Il convient donc de mieux connaître, de mieux définir ce groupe social en Périgord. Dans l'œuvre de Eugène Leroy, on a des bons et des mauvais nobles. La plupart sont mauvais. Qui sont ces mauvais nobles? Ce sont généralement les représentants de la noblesse de robe qu'ils estiment avoir pour une large part usurpé leur titre. Il a en revanche plus de sympathie pour la noblesse ancienne, pour la noblesse d'épée, incarnée dans le roman par le chevalier de Galibert, et pour les rendre acceptables ou supportables, pour reprendre l'expression de Claude-Isabelle Brelot, il la présente généralement, cette vieille noblesse, comme désargentée et généreuse, à l'inverse de la noblesse de robe qu'il taxe volontiers d'égoïsme, de cupidité, d'avarice, etc. On a toujours ces deux images du méchant noble et du bon noble. Mais quoi qu'il en soit, la richesse au champ est toujours incarnée dans l'essentiel des romans de Jacou le Croquant par la noblesse et non par ces notables bourgeois d'un nouveau genre qui sont pourtant en pleine ascension au XIXe siècle, ascension qui démarre dans la période qui nous intéresse. Donc on va essayer de voir un petit peu quelle est la réalité de cette notabilité au sens large, nobles et bourgeois, de cette notabilité rurale en Périgord. Le premier élément sur lequel je souhaiterais insister, c'est le fait qu'il convient de nuancer l'emprise foncière de la très grande propriété. Et là encore, de la même manière qu'on a une image traditionnelle d'un Périgord du métayage, on a aussi une image traditionnelle d'un Périgord dans lequel l'emprise de la très grande propriété est importante. Et cela a d'ailleurs été longtemps véhiculé, y compris par des historiens. René Pijassou, par exemple, dans ses travaux, véhicule cette image de la très grande propriété omniprésente et qui phagocyte le foncier en Périgord. Mais plusieurs travaux, et notamment ceux menés par Ralph Gibson, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, ont beaucoup fait évoluer nos connaissances à ce sujet. Il a d'abord mené une étude des listes censitaires, rien d'original, j'y passe très vite, qui a montré, non sans surprise, la prépondérance des propriétaires et des professions libérales parmi les plus imposées, que ce soit dans les campagnes ou dans les villes. En revanche, son étude très fouillée des cotes foncières du cadastre napoléonien pour l'ensemble du département est beaucoup plus novatrice. Elle a permis de revenir sur de nombreuses idées reçues concernant cette emprise foncière des notables en Périgord. Il a d'abord fait une première analyse des cotes foncières par catégorie de contenance qui donne dans l'ensemble une impression de grande inégalité, ce qui corrobore un petit peu ce que je viens de dire, grande inégalité dans la distribution de la propriété foncière, avec 6,2% des propriétaires qui détiennent plus de la moitié des terres en unités de plus de 20 hectares. Mais le grand apport de ces travaux réside surtout dans son analyse du cadastre en fonction de la valeur des terres en revenus imposables. Et là, c'est tout de suite beaucoup plus parlant. Et cette analyse minimise l'emprise foncière des très grands propriétaires. Ainsi, en étudiant entre autres les 4% des propriétaires les plus imposés dans chaque commune, il a pu montrer que ces 4% des propriétaires les plus imposés ne possédaient plus de 50% des terres en valeur imposable que dans 14% des communes du Périgord. Donc ça change tout de suite complètement la donne. Il est également rare, nous montre-t-il, que le propriétaire le plus imposé d'une commune détienne en valeur plus de 20% du territoire d'une commune rurale. Gibson en vient donc ainsi à la conclusion que l'inégalité dans la répartition de la propriété est donc réelle. Il est vrai et incontestable que 6,2% détiennent plus de la moitié du territoire, mais elle est bien moindre que dans d'autres régions, comme dans le Loir-et-Cher, qu'il a eu l'occasion d'étudier par exemple. Les plus grandes propriétés sont essentiellement concentrées dans des régions pauvres. Dans les régions, par exemple, de la Double, les régions de Landes que j'ai pu étudier, ou le nord du Périgord, proche du Limousin. Donc, la très grande propriété se situe dans les régions où la valeur de la terre est moindre. Là aussi, ça minimise forcément le phénomène. Les grands propriétaires présents en Dordogne n'étaient donc pas en mesure d'exploiter les paysans de manière aussi marquée que Eugène Leroy a voulu le suggérer dans Jacou le Croquant, où il donnait l'impression que la grande majorité des terres leur appartenaient. Si vous avez lu ou vu Jacou le Croquant, c'est vraiment l'image qu'il donne à voir. Deuxième idée que je souhaiterais nuancer, c'est que même si elle demeure importante parmi les grands propriétaires, la noblesse n'est pas majoritaire en Périgord à cette époque-là. En effet, sous la Restauration, parmi les 25% des plus imposés du département, 34% seulement sont nobles. Ils sont néanmoins majoritaires parmi l'élite de ces grands propriétaires, puisque sur les 34 qui paient plus de 2000 francs d'impôts en Périgord, 8 seulement sont roturiers. Sous la monarchie de Juillet, la noblesse conserve une position respectable, mais toujours minoritaire parmi l'élite censitaire, puisque parmi les électeurs payant plus de 1000 francs d'impôts, 83 sur 204, autrement dit 40%, sont nobles. Et si l'on descend dans les niveaux de fortune, la proportion diminue encore, puisque elle passe cette fois-ci à 11,6% des électeurs. Donc, qui sont les autres ? Eh bien, ce sont ce qu'il appelle ici, nobles roturiers, hein, ce sont ces fameux bourgeois représentants des professions libérales ou qui exercent des fonctions administratives, médecins, notaires, avocats, juges de paix, etc. Et il faut bien considérer qu'en Périgord, comme dans la plupart des régions françaises, dans cette première moitié du XIXe siècle, ce groupe notabiliaire est en pleine expansion. Et l'élargissement progressif du sens leur octroie des pouvoirs politiques à la hauteur de leur assise économique et, de fait, leur place sociale au village augmente en même temps. En effet, ces notables, parfois très riches, jouent de plus en plus un rôle crucial au village, dans les campagnes et dans leur modernisation, et deviennent progressivement des personnages clés de la vie au champ. Si le phénomène s'amplifie tout au long du XIXe siècle, il est déjà en place, hein, il est déjà bien amorcé sous la Restauration et la monarchie de Juillet. Tous ces éléments soulignent donc que les visages de la richesse au champ sont bien différents de ceux dessinés par Eugène Leroy. Et donc, de fait, de nombreux liens, bien plus complexes que ceux qu'il a évoqués dans ses romans, de nombreux liens se sont tissés entre riches et pauvres, l'aide des premiers envers les seconds ayant souvent largement dépassé, dès le premier XIXe siècle, le cadre de la charité ou de la bienfaisance. Il convient dès lors, dans un dernier temps, d'étudier plus avant ces liens multiformes, donc, qui unissent riches et pauvres au champ, dans le Périgord du premier XIXe siècle. Alors tout d'abord, arrêtons-nous sur les questions, quand même, de la charité et de la bienfaisance. Alors évidemment, l'aumône existe toujours, hein, mais je vais m'arrêter sur les structures à proprement parler, et tout d'abord les hospices et les œuvres de charité, dans lesquelles nobles et notables interviennent et jouent un rôle essentiel. Jusqu'au XIXe siècle, l'aide aux pauvres et aux démunis, orphelins, vieillards, mères-filles, veuves sans ressources, etc., est essentiellement le fait de mouvements d'inspiration religieuse et des pouvoirs locaux. Cependant, par manque de ressources, les communes rurales abandonnent de facto cette aide aux hospices et aux œuvres charitables. Or, pour la période, ces hospices et ces œuvres charitables sont essentiellement regroupés dans les chefs-lieux de canton. Pour les 20 communes que j'ai étudiées dans ma thèse, ce n'est que dans la deuxième moitié du XIXe siècle que l'on voit des œuvres de charité se développer dans les plus petits villages. Or, ces hospices, qui existent généralement depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, ont toujours été créés par des dons. Grâce à des dons, enfin en tout cas ceux que j'ai pu étudier en Périgord, ont été créés grâce à des dons de familles, de grands aristocrates généralement, leur mémoire est toujours honorée dans ces hospices au XIXe siècle. Le problème, c'est que le coût de ces hospices est tel que l'on encourage de plus en plus au XIXe siècle les structures de soins ou d'assistance à domicile, comme les bureaux de bienfaisance, tandis que les responsables des hospices préfèrent accueillir des malades qui peuvent payer les soins, et qu'il diminue de fait le nombre de lits dévolus aux indigents. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, hein, j'ai étudié une vingtaine à peu près d'hospices en Périgord, c'est à peu près un quart des lits qui sont réservés aux indigents à cette époque-là. Ce qui prend donc de l'ampleur dans la période, ce sont les bureaux de bienfaisance. Donc je l'ai dit tout à l'heure, c'est une loi de 1796 hein, qui crée ces structures, l'idée étant de permettre une prise en main, pendant la période révolutionnaire, donc une prise en main de l'assistance aux pauvres par les municipalités. L'idée était de créer un bureau de bienfaisance dans chaque commune, mais la réalité est tout autre, puisque sous les monarchies constitutionnelles en Périgord, sauf cas exceptionnel, seuls les chefs-lieux d'arrondissement et chefs-lieux de canton disposent, là encore, de bureaux de bienfaisance. Les notables sont généralement nobles ou bourgeois, hein, sont généralement à l'origine, bien sûr, ou sont tout le temps à l'origine de ces bureaux de bienfaisance. Ce sont eux qui génèrent leur création et ce sont eux qui aident à leur fonctionnement, y compris par les dons et les legs hein, que l'on repère dans les archives de ces bureaux de bienfaisance. Alors, généralement, le secours proposé est proposé en nature, distribution de pain, de vêtements, etc. Et l'enquête Brard, j'y reviens, témoigne de l'importance de ces nouvelles structures qui sont encore peu nombreuses, donc, à l'époque qui nous intéresse. En effet, les paysans, je vous l'ai dit, quittent volontiers leur commune pour aller s'installer là où il y a un bureau de bienfaisance dès qu'il est créé. Et là, on a plusieurs exemples, hein. Donc, je vous parlais tout à l'heure du maire de Nontron, qui nous dit que le nombre de pauvres est immense depuis qu'il existe un comité de bienfaisance. Celui de Bussière-Badil va dans le même sens, expliquant que sa commune compte 40 pauvres, dont la plupart ont été attirés dans la commune dans l'espoir de recevoir le secours du bureau de bienfaisance qui s'y est établi. Les édiles, généralement, sont confiants et veulent croire aux résultats de ces nouvelles structures, à l'instar du maire de Saint-Astier qui, je cite, « a la satisfaction d'exprimer que, dans quelques années, grâce à l'action du bureau de bienfaisance, le sort des pauvres de la commune sera bien amélioré ». Le problème est que charité et bienfaisance s'adressent avant tout aux plus démunis, aux mendiants, aux indigents. Or, nous avons montré combien la pauvreté est répandue aux champs, combien la précarité va bien au-delà de ce groupe social. De fait, de nombreux notables ont saisi l'importance de ce phénomène de la pauvreté et prennent progressivement de plus en plus de mesures qui sont à même d'améliorer le sort de cette masse de paysans pauvres. Si ces mesures ne peuvent être directement considérées comme des mesures de lutte contre la pauvreté, hein, ce serait exagéré le fait, elles jouent pourtant un rôle majeur dans l'amélioration du sort des paysans pauvres. Parmi ces mesures, on peut tout d'abord évoquer création des comices agricoles. Si le but de ces structures qui apparaissent en Périgord dans les années 1820 est avant tout d'encourager la modernisation de l'agriculture, il s'agit bien, dans l'esprit de la plupart des notables qui s'y engagent, de rompre, je reprends les termes que l'on trouve dans les statuts, généralement, en tout cas dans les discours de création, de rompre avec la routine et l'archaïsme des pratiques agricoles, afin d'entraîner la petite paysannerie dans un cercle vertueux, en lui enseignant les meilleurs procédés agricoles. Et j'ai lu la plupart des discours de création et des débats au moment de la création des comices, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, et c'est un discours qui revient de manière récurrente. La question de la lutte contre la pauvreté est omniprésente dans les motivations de ces notables au moment où ils mettent en place des comices. Alors, les encouragements proposés par ces comices consistent généralement en primes, ce qui encourage plus encore les paysans pauvres, primes et médailles qui sont décernées au moment des concours et des expositions. La grande majorité des comices périgourdins et français naissent pendant cette période des monarchies parlementaires, et le Périgord est d'ailleurs précurseur en la matière grâce à l'action du maréchal Bugeaud, qui est vraiment l'homme des comices en France, hein, qui a été député, qui a beaucoup œuvré pour les comices dans le cadre de sa députation. Et donc on voit ici que l'essentiel des comices du Périgord sont créés dans la décennie 1830, alors que si on faisait le même graphique à l'échelle française, ce qui demanderait beaucoup de travail, mais grâce aux études qui ont déjà été menées sur la question, on sait que le phénomène est beaucoup plus étalé sur la décennie 1830-1840. Alors, si ces comices tardent, et on le sait, à se démocratiser, à s'ouvrir aux petits propriétaires, qui sont, on l'a dit, très nombreux en Périgord, ils touchent néanmoins, dès le départ, une partie des gens de la terre les plus modestes, tels que les métayers ou les domestiques. Alors, évidemment, dans un premier temps, quels sont les métayers ou les domestiques qui se présentent? Ce sont ceux des notables qui ont créé le comice. Bien sûr, ce ne sont pas ceux des notables qui se comporteraient à la manière du comte de Nonsac que nous décrit Eugène Leroy. Et effectivement, j'ai étudié certains comices prime par prime, selon une méthode macro-historique. Et par exemple, dans le premier comice créé en Périgord par le maréchal Bugeaud, qui n'était pas encore maréchal à ce moment-là, en 1824, le comice de Lannoyes, les primes sont dans leur très grande majorité distribuées aux membres du comice, soit pour leur propre réserve, soit à leur maître valet, soit à leur domestique, soit à leur métayer. Et il s'agit de 100% des primes dans les premières années et encore de plus de 80% des primes 10 ans après, hein, qui ne s'adressent qu'à ceux qui sont parmi les gens du bureau de ces différents comices. Néanmoins, reste que la pédagogie par l'exemple opère forcément et que ces paysans diffusent à leur tour, à n'en pas douter, ce qu'ils apprennent dans les comices auprès d'autres paysans, pardon, travaillant pour des propriétaires moins éclairés. Or, on sait combien dans des régions pauvres comme celle de la Double, que j'ai pu étudier, combien le comice a pu jouer avec d'autres structures qui apparaîtront progressivement dans le siècle, un rôle essentiel dans l'amélioration de l'agriculture et donc de fait dans l'amélioration des conditions de la vie paysanne. Deuxième élément qui a pu contribuer indirectement à l'amélioration du sort des paysans les plus pauvres, c'est l'œuvre qui a été menée par de nombreux notables dans l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène dans les campagnes. Évoquons pour la double le rôle joué par un docteur qui a d'ailleurs largement inspiré Eugène Leroy pour un autre de ses romans qui s'appelle « L'ennemi de la mort ». Donc ce docteur Gaillardon est l'un des premiers, d'ailleurs le premier que j'ai pu repérer dans les sources, à avoir attiré l'attention des autorités publiques concernant la situation dramatique de cette région de la Double, hein, qui, pour faire vite, est une région de taillis marécageux, ravagée par les fièvres paludéennes. Le taux de mortalité en France est alors d'une moyenne de 22 pour 1000, et dans les communes les plus touchées de la Double, on a un taux de mortalité de 40 pour 1000 à ce moment-là. Donc c'est le premier à avoir attiré l'attention des autorités publiques et à avoir lancé le mouvement de régénérescence et d'assainissement, d'assèchement des étangs qui va s'étendre sur l'ensemble du XIXe siècle pour cette région. Il s'est aussi battu pour essayer de supprimer les impôts sur les portes et les fenêtres parce qu'il estimait que ça obligeait les paysans à vivre sans lumière et sans air. Et en tant que médecin, dans le courant hygiéniste de l'époque, il a beaucoup œuvré dans ce sens-là. Avec son confrère, un maire d'une commune voisine, le docteur Piotet, il s'est battu également pour le développement et la construction d'un réseau de routes secondaires. Je vous ai dit qu'à cette époque-là, dans le cadre de la loi Thiers-Montalivet, on a beaucoup de routes qui se créent, routes départementales, des chemins vicinaux aussi, mais souvent le tracé de ce que l'on appelle aujourd'hui les routes communales, qui étaient en fait les chemins de grande et moyenne communication, dépend du pouvoir de persuasion et de l'action menée par les élus, maires, mais aussi conseillers généraux, conseillers d'arrondissement, dans le cadre des débats. Et en la matière, ils ont beaucoup œuvré pour que la Double, qui était totalement enclavée, hein, on avait 50 000 hectares qui n'étaient traversés quasiment par aucune route, ils ont beaucoup œuvré pour le désenclavement de cette région, désenclavement qui permettait des déplacements plus faciles et donc des échanges et du commerce. Et dans le même sens, ces deux personnages et d'autres aussi se sont battus pour multiplier dans la région les foires et les marchés, qui était autant d'occasions, donc, si l'on pouvait mieux se déplacer, de vendre des surplus, donc d'avoir un peu plus de numéraire, donc d'avoir une petite paysannerie qui était dans une situation bien meilleure que celle décrite dans les romans de Eugène Leroy. Donc l'amélioration des conditions d'hygiène, des techniques agricoles, et le développement des échanges, encouragés par tous ces notables, même si on ne peut pas parler ici de lutte directe contre la pauvreté, ont permis à la paysannerie souvent précaire de produire et de vendre des surplus, et donc de gagner en indépendance financière. Alors, simplement un petit point de méthode. Il faut se méfier, quand on mène ce genre d'études, de l'effet de source. En effet, les actions multiformes menées par les notables ont généré des sources. Et donc, de fait, on peut avoir parfois tendance, hein, et j'ai fait très attention à ça dans ma thèse, on peut avoir tendance à surévaluer ces actions menées par les notables, dit-on, éclairés, tout simplement parce qu'ils sont mis sur le devant de la scène et qu'ils produisent des sources. Effectivement, pour un petit peu contrebalancer cet effet de source, il conviendrait de mener une étude précise de mémoire, de livres de raison, de récits, pour voir un petit peu, y compris chez des gens moins engagés dans la modernisation rurale, pour mieux saisir la perception des pauvres par les plus riches et ainsi peut-être mieux comprendre les tensions qui pouvaient parfois exister entre ces deux catégories. C'est ce qui m'amène à parler donc dans mon dernier point de cette troisième partie, des révoltes et des tensions paysannes envers les plus riches. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais Jacques le Croquant n'a pas existé. C'est un pur personnage de fiction, il n'y a pas eu de Jacques le Croquant, de la même manière que le château de Lerme, hein, qui est l'objet de l'attaque par Jacques le Croquant et ses amis paysans, n'a jamais été incendié. Il est tombé en ruine tout simplement parce que ses propriétaires ne s'en sont pas occupés, il avait déjà été très abîmé à la Révolution, il a été restauré depuis. Mais néanmoins, dans son souci de réalisme, Eugène Leroy s'est largement inspiré d'événements locaux pour inventer donc cette intrigue de Jacques le Croquant. Et effectivement, je ne vous apprends rien, beaucoup de révoltes paysannes secouent le Périgord et les régions voisines. Je vous renvoie au livre d'Yves-Marie Berset notamment, hein, qui a beaucoup travaillé sur la question. De nombreux châteaux ont été attaqués ou brûlés en Périgord entre la Révolution jusqu'au fameux meurtre de Hautefaille, hein, qui a inspiré Alain Corbin dans le village des cannibales en 1870. Il y a notamment deux événements dont on suppose qu'ils ont largement inspiré Eugène Leroy. C'est en 1830 l'assaut du château de Pazayac, P-A-Z-A-Y-A-C, donc château qui a été pris d'assaut par les paysans du village alentour. Alors, c'est intéressant parce que le comte ne s'appelait pas Nansac comme dans le roman, mais Moissac, c'est pas très très éloigné. Alors, contrairement à l'intrigue du roman, les paysans n'en voulaient pas, en particulier, a priori, j'ai pas mené moi-même, hein, je vous livre là des travaux d'autres collègues. A priori, les paysans n'en voulaient pas, en particulier au comte, qui était d'ailleurs absent ce soir-là. Simplement, on est en 1830, la situation du moment fait que on a plusieurs révoltes dans les campagnes, et on est en plein été, au moment de la fête patronale, qui sont généralement, comme l'a montré Yves-Marie Berset, des moments propices au débordement paysan. L'assaut n'a rien à voir avec celui du roman, on ne brûle pas le château, on rentre. Le régisseur s'est pas battu très longtemps, les gendarmes non plus, apparemment ils n'étaient pas très copains avec le comte d'ailleurs. Et puis on a volé des victuailles, quelques objets, cassé quelques vitres et on est reparti. L'autre événement qui a peut-être inspiré Jacques le Croquant, c'est l'attaque du château de Bugeaud dont je parlais tout à l'heure, château de la Durantie, qui a été mené en 1848, hein, dans le cadre des très très nombreuses attaques de châteaux menés entre 48 et 49 dans le cadre de l'impôt des 45 centimes qui a généré beaucoup de révoltes paysannes. Et donc, le château de Bugeaud a été attaqué à tel point qu'il a fallu faire intervenir la garde. Hein. Bugeaud, écrivant à un ami, nous dit, je cite, « Il a fallu employer les grands moyens. On a envoyé 300 hommes du 35e pour punir les fauteurs d'une émeute très sérieuse. Tout cela est dû à trois démagogues qui lisaient tous les dimanches à la sortie de la messe le journal rouge avec des commentaires. C'était un club en plein air. C'est ainsi qu'ils ont rendu furieux des paysans paisibles dont j'ai servi activement les intérêts pendant 30 ans et qui m'étaient reconnaissants et dévoués. » Donc on le voit, qu'il s'agisse des émeutes de La Noaille ou du château de Bugeaud, on a des motivations qui n'ont rien à voir avec celles de Jacques le Croquant. Et il est d'ailleurs difficile de croire que, dans cette période, hein, de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, un grand propriétaire terrien ait pu se comporter à la manière du comte de Nansac, qui, je vous dis, hein, dans le roman, interdit la traversée de ses bois, de ses champs, de ses chemins, interdit le pacage sur les communaux, oblige ses métayers à avoir des chiens de chasse qui ont le jarret coupé, les enlève, les violente, etc. Enfin bon, il réunit tous les maux. On sait bien que la justice sous la Restauration n'est pas un modèle d'équité, mais de tels actes auraient, semble-t-il, difficilement pu rester impunis. Néanmoins, il n'est pas exclu que des abus aient été commis dans cette période, dans ces cantons isolés du Périgord, où généralement les représentants du droit et de la justice étaient souvent des proches des grands propriétaires fonciers quand ce n'était pas les mêmes, tout simplement. Et on sait en effet que sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, en Périgord, comme dans beaucoup d'autres départements, de nombreux notables conservateurs, nobles ou non d'ailleurs, espéraient vivement le retour à l'Ancien Régime et cultivaient une véritable nostalgie des droits seigneuriaux. Mais surtout, ce qu'il convient de retenir, c'est que le plus souvent, les affronts opérés par les pauvres envers les riches étaient bien moins spectaculaires que ces attaques de châteaux, et se limitaient à des moqueries, à des commérages, au lavoir ou à la forge, ou à quelques menus larcins tels que le braconnage sur les terres d'autrui. Braconnage qui était effectivement un revenu complémentaire précieux et qui était très répandu dans la mesure où le droit de chasse est limité jusqu'en 1844 aux seuls propriétaires. Autrement dit, métayers et journaliers, qui sont nombreux en Périgord, n'ont pas le droit de chasser jusqu'en 1844. En 1844, le permis de chasse donnant en théorie, le droit à tout le monde de chasser est instauré, mais le prix du permis, 28 francs, est évidemment rédhibitoire et fait que le braconnage reste très répandu. Le problème, c'est que, pour l'historien, ces tensions, ces oppositions silencieuses du quotidien, des plus pauvres envers les plus riches, a laissé très peu de sources et ne peut finalement être approchée que par les récits proposés par les élites. Donc ça, c'est un véritable manque que j'ai pu regretter. Donc, au terme de cet exposé, il convient donc de retenir que les notions de pauvreté et de richesse au champ sont aussi fluctuantes que relatives. La pauvreté au champ ne se limite pas, vous l'avez compris, aux plus démunis, aux mendiants et aux indigents, mais elle est le quotidien d'une population paysanne beaucoup plus large, parfois fort nombreuse dans certains villages. Il suffit que la récolte soit mauvaise, que la soudure dure trop, pour que des familles entières tombent dans la pauvreté. La richesse peut quant à elle être incarnée par des notables, nobles ou bourgeois, grands propriétaires et ou représentants de professions libérales ou de l'administration. Il convient néanmoins de retenir que dans la période considérée, on assiste à un bouleversement de l'incarnation de la richesse au champ, la noblesse étant progressivement rattrapée, économiquement, surtout politiquement et socialement, par les notables ruraux bourgeois, alors en pleine ascension. Enfin, le soutien des riches envers les pauvres, loin de se limiter à la charité et la bienfaisance, prend des formes diverses et nouvelles en cette première moitié du XIXe siècle et se confond avec la volonté de nombreux notables agromanes de moderniser l'agriculture et d'améliorer ainsi les conditions de vie en milieu rural. De la même manière, si les révoltes des paysans pauvres envers les représentants de l'ordre ancien qui étaient les châtelains sont encore nombreuses en Périgord, les tensions envers les riches sont au quotidien des tensions beaucoup plus silencieuses. Faire l'histoire de la richesse et de la pauvreté au champ dans la première moitié du XIXe siècle, en Périgord comme ailleurs, c'est donc faire l'histoire de phénomènes mouvants, socialement, sociologiquement, économiquement ou spatialement, qu'il s'agisse de leur définition, de leurs causes, de leurs manifestations, de leurs effets ou encore de leurs interactions. Merci beaucoup.